Eric. À partir d'un voyage commun, évidemment, tout ce qui est chacun de nous ressort à tout moment.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
Une liaison heureuse tout de suite, c'est avec celle du répondeur de là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Bah dis donc Daniel, des émotions comme ça, ça fait longtemps que j'en ai plus. J'ai dû m'arrêter sur l'autoroute pour les larmes aux yeux, je ne pouvais plus conduire. Merci, merci. C'est Georges de Strasbourg. Merci beaucoup.
J'ai pris l'émission de jeudi en marche. Très vite, j'ai reconnu nos amis Pierrot, déjà diffusé en 2001. Je l'ai réécouté et je l'ai relu. Car il existe un livre paru en octobre 2001 aux éditions La Découverte et France Inter, avec le texte de Daniel et le CD de l'émission. Un très joli petit bouquin, illustré par Daniel. Je ne sais pas si c'est l'âge ou la période dans laquelle nous vivons. J'ai été encore plus touchée, je crois, qu'il y a 11 ans. La semaine passée, les retransmissions des interviews de Daniel Ben Saïd à propos de Marx, sa voix chantante, enthousiaste, toujours jeune, alors qu'il était proche de sa fin, et pour moi la disparition d'une amie très chère, sans qu'elle ait eu le temps de peindre son lac, celles et ceux qui résistent, qui nous aident jour après jour à rêver en bougeant, qui témoignent que d'autres mondes sont possibles. Merci de les inviter dans tes émissions, Daniel, dans tes émissions modestes et géniales, tellement précieuses. Michel de Haute-Provence.
Merci, Daniel, de nous avoir fait partager cette belle amitié. En t'écoutant, je me dis que ces soirées que tu as passées à refaire le monde avec Pierrot étaient une sorte de répétition de là-bas si j'y suis. Sur la table aujourd'hui, le micro a remplacé la bouteille de rouge et toi, tu perpétues la même ferveur à travers les ondes. On sait maintenant d'où vient cette émission modeste et géniale qui porte en elle un peu de cette amitié qu'il l'a vu naître. C'était vraiment une belle émission et c'était une grande émotion. Christophe, à Caen.
Je vous appelle pour le reportage d'aujourd'hui. En fait, je viens d'avoir 47 ans, le 2 février, donc aujourd'hui. Voilà, mon temps est compté. Hein, le cœur n'est pas en bon état, mais bon, c'est pas très grave. J'ai eu vraiment la sensation que c'était un cadeau aujourd'hui que vous m'aviez fait. Donc je voulais juste vous en remercier. Ça m'a fait un bien, vous pouvez même pas imaginer. Je vous remercie du fond du cœur. C'était Pierre de l'Ardèche.
25 ans. J'ai 25 ans, bientôt 26. Le temps qui flue et qui reflue, qui file et qui défile. Ma forêt est là, qui m'entoure, bien feuillue, bien conifère. Pourtant, il manque déjà 3 arbres dans ma forêt. Celui qui a toujours poussé tordu entre les pierres, qui n'a jamais eu de peau et trop tôt s'est pris un coup de tonnerre. Celui qui penchait vers le gouffre parce que le vertige de la mort était sa raison de vivre. Et celui qui poussait tout droit vers les hauteurs, que le vent de là-haut, paraît-il très fort, a soufflé traîtreusement. Il est dur à assumer le message de ceux qui meurent en nous disant de vivre. C'est là qu'on se rend compte que l'on a un passé. Pour toi, Daniel, c'est 68. La lutte et la vie en communauté. Pour nous, enfants des années 80 et 90, rescapés du XXe siècle, ça a toujours été du passé. À quoi bon se révolter, nous demandions-nous, quand sont déjà passés avant nous tant de rebelles, hippies, trotskistes, maoïstes, rockers, punks qui gueulaient No Future comme un slogan, le No Future qui était pour nous une triste constatation. Alors nous aussi, nous avons jonglé, joué, chanté, bu et fumé à outrance. Mais les murs étaient déjà en ruine. Nos idoles les plus subversives, récupérées illico par l'industrie commerciale. La lutte pour nous a été avant tout contre nous-mêmes. Ne pas sombrer, ne pas rêver trop loin pour ne pas encaisser une désillusion de plus. Des enfants, non. L'avortement, le poids d'un choix que nous n'avions rien fait pour avoir, que d'autres s'étaient battus pour avoir. Les murs étaient déjà en ruine et derrière le désert. La fausse liberté de pouvoir aller partout quand rien n'est nulle part. Mais l'espoir qu'on a mis tant de temps à découvrir et à construire est bien solide. Alors merci les morts, merci la vie. Et rendez-vous à 3h après la Révolution. Salut.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, c'est le diplôme, comme chaque mois. Nous nous retrouvons avec l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça. Et aujourd'hui, on va parler de Taïwan avec Martine Bullard. Ça fait du bien de sortir un petit peu de nos préoccupations hexagonales. On va parler des Nations Unies avec Anne-Cécile Robert, à quoi ça sert et qui veut la peau de l'ONU. On va parler de cosmologie, de Big Bang et de tas de choses auxquelles j'avoue ne rien comprendre, mais j'espère que je vais comprendre un petit peu mieux avec Aurélien Barraud comment l'on passe de l'univers au multivers. Et oui. Avec Serge Halimi, nous reparlerons de la taxe Tobin, qui était quand même liée au monde diplomatique en 1997. Et puis, on parlera aussi de la contre-culture américaine aux États-Unis en 1962, avec un article d'Alexander Cockburn. Et puis, on rencontrera avec plaisir à nouveau Jean Ziegler sur la fin, comment la fin dans le monde provient de la spéculation financière, comment il y a un lien direct entre la spéculation sur les matières premières alimentaires et la mort de centaines de milliers d'êtres humains chaque année dans le monde, l'ordre cannibale du monde, dira Jean Ziegler. Voilà les sujets aujourd'hui autour du diplôme. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous et merci de votre émission. C'est Michel de Colomiers. Je suis d'accord avec le message que vient de passer une auditrice dont j'ai oublié le nom. Je suis arrivée trop tard. Quand j'ai vu Wauquiez rouler les mécaniques en disant qu'on allait sauver de Javi, c'est du bel enfumage, parce que le père Arnaud Helmbelach, quand il en aura ras-le-bol de Javi, c'est-à-dire quand la gauche sera passée au pouvoir, ce qui ne saurait tarder, je l'espère, il va les lâcher en pleine campagne, et c'est parfaitement électoraliste cette histoire, hein, parce que Wauquiez n'était jamais venu, même en voisin, voir le Javi depuis le temps qu'il se cassait la gueule. Il n'y est venu que la veille ou le lendemain de l'arrivée de Montebourg, c'est du bel enfumage, et j'espère quand même que les citoyens français ne sont pas dupes de cette mise en scène. Moi, ça me débecte de voir ça, et j'espère que il y a des gens assez intelligents, assez fins, assez intuitifs pour refuser ce genre de comédie. C'est de la comédie. C'est bon sur une pièce de théâtre, mais pas dans la vraie vie. Allez, salut, merci à tous.
C'est la base, j'y suis, c'est le monde diplomatique de février.
Flight number 2, arriving from New York.
Tic-tac. La taxation.
Tic-tac. Nicolas Sarkozy.
Tic-tac. Des transactions financières. Tic-tac. Nous pouvons le décider.
Tic-tac. Assemblée générale de l'ONU.
Tic-tac. Pourquoi attendre?
Tic-tac. 20 septembre 2010.
Tic-tac. Au nom de quoi? Tic-tac. Nous ne demanderions pas. Tic-tac. À la finance. Tic-tac. De participer à la stabilisation du monde en prélevant sur chaque échange financier une taxation infime.
L'affaire de la taxe Tobin.
Nicolas Sarkozy.
Est une absurdité.
France 2, 7 juin 1999.
Et ce que vous ne comprenez décidément pas, c'est qu'à force d'accumuler comme des cathédrales des réglementations, des impôts et des taxes, vous avez à ce moment-là le résultat inverse à ce que vous cherchez, peut-être avec bonne foi.
Alors, on est avec ce numéro du Monde Diplomatique de février. Et on va commencer par l'article de Serge Halimi. On va parler de la taxe Tobin quand même. Serge Halimi, j'entendais l'autre jour un de mes confrères sur France Info qui disait que depuis 40 ans, la taxe Tobin était un serpent de mer qui revenait régulièrement. Mais enfin, sans vouloir vous défendre, vous n'avez pas besoin. Enfin, ce confrère oubliait quand même le rôle joué par le Monde Diplomatique dans la popularisation de la taxe Tobin en 1997. C'est quand même resté une date pour vous, au moins. Et c'est une idée qui est reprise par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est tout à fait sur la ligne du Monde Diplomatique de 97.
Oui, votre journaliste de France Info n'avait pas tort. C'est vrai que c'est un peu un serpent de mer. Il avait tort d'oublier que effectivement en 1997, dans un article d'Ibrahim Varr de février et puis dans un éditorial d'Ignacio Ramonet en décembre, nous avions popularisé cette idée. À l'époque, l'économiste américain Tobin estimait qu'il y avait trop de spéculation financière et il voulait jeter, pour reprendre sa formule, jeter du sable dans les rouages de la finance. En 1997, on estime que les transactions financières représentaient 15 fois la production annuelle mondiale. Là, aujourd'hui, vous allez tout de suite constater qu'on n'a pas du tout jeté de sable dans les rouages de la finance, puisque ces transactions financières représentent près de 70 fois la production annuelle mondiale. Donc, sur ce plan, il est vrai que cette idée a été développée, popularisée, et qu'elle n'a eu aucune traduction pratique. Elle n'a eu aucune traduction pratique parce qu'au moment où nous l'avons défendue, au monde diplomatique, le contexte était celui de socialistes européens qui étaient complètement envoûtés par Tony Blair, le modèle britannique, le Big Bang financier, et qui ne juraient que par la City de Londres et cette innovation financière. Au même moment, aux États-Unis, Clinton avait la bonne idée de supprimer la distinction entre banque de dépôt et banque d'investissement, ce qui a déchaîné la spéculation qu'on a connue par la suite. Quant à Nicolas Sarkozy, pour ne pas l'oublier, lui, il était fasciné par le modèle américain, par la réserve fédérale. Il déclarait même en 2004 « Si je devais prendre un modèle, ce serait Alan Greenspan ». Il a toujours agi avec pragmatisme et humilité. Et maintenant, on sait qu'Alan Greenspan a été sans doute l'un des plus mauvais responsables de la réserve fédérale et l'un des principaux responsables de la bulle financière dont chacun vit les conséquences à l'heure actuelle. Donc, autant dire que quand on a proposé cette idée de taxe Tobin, les gens ont trouvé ça, certains, sympathique, mais ça n'a pas beaucoup avancé, y compris dans la presse, puisque tout allait si bien. C'était la spéculation qui enrichissait tout le monde, c'était la mondialisation heureuse, etc. Le président de la République était Jacques Chirac, mais le Premier ministre était Lionel Jospin. Le ministre français de l'économie et des finances était un certain Dominique Strauss-Kahn, qui jugea d'emblée que cette taxe Tobin était impraticable. Quant à Nicolas Sarkozy, lui, il a eu un avis là-dessus. Alors citons son avis sur la taxe Tobin. « L'affaire de la taxe Tobin est une absurdité. Chaque fois que nous pénalisons la création de richesses sur notre territoire, nous favorisons la création de richesses chez les autres. » Alors lui, on peut dire que sur ce plan, il a évolué. Il a évolué, pas tout de suite, parce que d'abord, il a eu de la suite dans les idées. Dès qu'il est devenu président, l'une de ses premières initiatives, ça a été de supprimer un impôt de bourse, c'est-à-dire de faire exactement le contraire de ce qu'aurait été la taxe Tobin, de supprimer une taxe sur les transactions financières. Donc rien n'a été fait au moment où nous avons proposé la taxe Tobin, la spéculation s'est envolée, on a inventé les crédits subprimes, on célébrait le patron de la réserve fédérale, Alan Greenspan, on en est arrivé à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis, tout le monde hurle contre l'argent roi. À vrai dire, on se demande qui défend la finance.
Voilà, voilà.
Qui défend la finance ? Parce qu'après tout, c'est eux qui lui ont permis de prendre des rondeurs, de s'envoler, etc. Alors maintenant, vous avez, par exemple, quelqu'un comme Sarkozy qui dit qu'il faut faire participer la finance à la réparation des dégâts qu'elle a provoqués. C'est une question d'efficacité, c'est une question de justice. Récemment, François Hollande, le candidat socialiste, a eu une déclaration très spectaculaire et très remarquée. « Mon ennemi n'a pas de nom, mon ennemi c'est la finance, c'est l'empire de l'argent ». Et puis Bayrou dénonce lui aussi l'argent roi en expliquant qu'il ne faut pas céder au modèle dominant, c'est-à-dire celui de l'argent roi.
Alors, c'est le NPA finalement, étendu à toute la planète.
C'est extraordinaire.
Le NPA est devenu tout petit, mais ici finalement parce que tout le monde a piqué les idées du NPA.
À vrai dire, moi je les appelle les nouveaux ravachols parce qu'ils sont très largement débordés sur la gauche et parfois il faut leur dire « vous allez trop loin quand même, sachez vous contrôler ». À l'heure actuelle...
Faire participer la finance à la réparation des dégâts qu'elle a provoqués. Ça c'est Nicolas Sarkozy qui a déclaré ça récemment. Et Newt Gingrich, qui est l'un des candidats aux primaires républicaines, lui, il dénonce les vautours de Wall Street qui dérobent tout l'argent de votre entreprise, entraînant votre faillite, et partent avec les millions. Voilà. On dirait du François Ruffin, ça.
Oui. Hein,
c'est quand même les rapaces.
Bon. Et il faut dire qu'à l'époque, Newt Gingrich était le président de la Chambre des représentants. C'est-à-dire celui qui, avec Clinton, a organisé cette politique financière qui consistait à supprimer, en quelque sorte, l'impossibilité pour les banques de dépôt de faire des investissements financiers avec l'argent de leurs clients, ce dont on connaît les conséquences. Donc tous ces gens-là, maintenant, sont très radicaux. Mais comme vous le savez, il n'y a toujours pas de taxe Tobin. On a l'impression qu'elle est faite depuis très longtemps à les entendre. Mais il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Et ce que propose Nicolas Sarkozy, c'est une taxe absolument dérisoire qui n'a aucun des objectifs que nous préconisions en 1997 pour la taxe Tobin, c'est-à-dire l'aide aux pays du Sud et la lutte contre le réchauffement climatique. Là, il s'agit d'un nouvel impôt qui aura pour objectif de réduire les déficits français. Donc cette dimension de solidarité, cette dimension de taxe financière internationale pour participer à la solidarité Nord-Sud, elle a complètement disparu. Il s'agit en quelque sorte de boucher les trous qui ont été très largement provoqués par l'aide considérable qu'on a apportée à la finance.
Oui, mais là, vous lancez un appel quasiment, parce que la fin de votre papier lance l'idée, la conviction qu'il faut nationaliser les banques. Ça revient à ça.
Oui, je dis, puisque nos adversaires idéologiques, ceux qui ont approuvé toutes les déréglementations financières des 15 dernières années, puisque ces adversaires idéologiques maintenant viennent sur des positions qui sont beaucoup plus avancées, ce serait très maladroit de notre part de faire du surplace et de ne pas tirer nous aussi les conséquences de la crise économique et financière. Et les conséquences de la crise économique et financière, Frédéric Lordon l'a expliqué à plusieurs reprises, chez vous et dans nos colonnes, c'est qu'on a accordé aux banques la possibilité de prendre la collectivité en otage, de dire « si vous ne nous aidez pas, l'économie s'écroule ». Et c'est vrai qu'elle joue un rôle tel dans la finance, dans l'attribution des crédits, dans la consommation, dans la vie de tous les jours, dans nos vies de tous les jours, qu'on est obligé de les aider. Eh bien, je dis, pourquoi être obligé d'aider des institutions privées et pourquoi ne pas estimer qu'une mission d'intérêt général aussi importante que cette mission financière devrait être réservée à des entités publiques ?
Il s'appelait Miriano, desperado sur son chariot, il savait voltiger, voler, receler. Il savait voltiger, voler, receler. Mais quand les marchés ont coulé, la chose s'est mise à vaciller, tout le business s'est délocalisé à l'ouest. Tout le business s'est délocalisé à l'ouest. CAC 40, moi j'y comprends rien. Le cours des ventes, moi j'y comprends rien. Nasdaq to rent, I don't understand. Dow Jones, Nikkei, quelle est cette monnaie? Armée de guns et dynamite, la dévalise Wall Street. Stock market, that really far in the far west. Mais la crise avait tout pété et y avait plus de banques à braquer. L'action a sombré dans la dépression. Et l'action a sombré dans la dépression. Le CAC 40, moi j'y comprends rien. Le cours des ventes, moi j'y comprends rien. Nasdaq to rent, I don't understand. No Jones, Nikkei, quelle est cette monnaie?
La Chine a salué la victoire du président taïwanais Ma Ying-jeou lors des élections samedi dernier.
NDT.
Celui-ci a promis de ne rien changer aux relations entre la Chine et Taïwan.
14 janvier 2012.
Dimanche dernier, les journaux chinois ont acclamé la victoire de Ma Ying-jeou. Le quotidien du peuple en particulier, le journal officiel du Parti communiste, a applaudi ce résultat. Au cours du premier mandat de Ma Ying-jeou, la Chine et Taïwan avaient renforcé leurs liens économiques et commerciaux. Ying Fengchu, une étudiante, a suivi les élections de près, comme de nombreux citoyens chinois. Toute ma famille est très heureuse. Hier soir, nous étions tous assis devant la télévision et nous consultions le site internet des élections toutes les 5 minutes. Wu Chao, un autre étudiant, pense que la réélection de Ma Ying-jeou va permettre de renforcer les liens économiques entre Taïwan et la Chine.
On continue avec le diplôme de février. Et là, on va aller avec Martine Bullard à Taïwan. Elle s'est intéressée à cette île qui est face à la Chine. On oublie que Taïwan a été occupée par le Japon assez longtemps. On est passé de l'occupation japonaise à l'occupation chinoise. Et puis ensuite, Taïwan est devenu le refuge du nationalisme chinois face à l'empire de Mao Zedong. Et aujourd'hui, tout ça est arrangé. Parce que ce que vous dites dans votre papier, c'est que le gouvernement de Taïwan s'entend parfaitement aujourd'hui avec le Parti communiste chinois. Donc tout va pour le mieux. Non, pas tout à fait.
Pas tout à fait. C'est que si on parle.
Si ça allait mieux, il n'y aurait pas de papier.
Exactement, encore que c'est des fois intéressant de voir pourquoi ça va mieux. Mais en l'occurrence, si on parle du gouvernement, effectivement, il est assez curieux de voir que le représentant le plus anticommuniste, qui s'est battu contre Mao Zedong, comme vous le rappelez, pactise, plus que pactise d'ailleurs, travaille avec le Parti communiste chinois. Alors, c'est moins pour des raisons idéologiques que pour des raisons sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire qu'on va faire des affaires en Chine continentale, puisque, comme vous le savez, Taïwan a cette particularité d'être ni un État reconnu comme tel par l'ONU, ni...
Dont nous allons parler
tout à l'heure avec Anne-Cécile Robert. Donc, c'est ni un pays reconnu par l'ONU, ni un pays complètement intégré à la Chine. Alors la Chine considère que Taïwan fait partie intégrante de son territoire, mais en même temps, elle est bien obligée de reconnaître qu'il y a un président de la République élu au suffrage universel, une assemblée législative qui joue son rôle, des syndicats qui sont marginalisés mais qui ont quand même opinion sur rue, un territoire qui a sa propre monnaie. Donc, du point de vue de Pékin, ça fait partie intégrante, mais du point de vue des Taïwanais, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que j'ai montré dans mon article, c'est que, en vérité, du point de vue du gouvernement, comme je vous le disais, il y a un accord assez étroit. Du point de vue d'une partie de la bourgeoisie taïwanaise, il y a un accord assez étroit. Le symbole, c'est Foxconn, ce fameux producteur taïwanais de l'iPhone, et qui est installé, qui a fait une énorme entreprise de concentration ouvrière à Shenzhen, dans le sud de la Chine, où il y a des conditions de travail épouvantables. Vous savez, ça a fait le tour de la planète quand il y avait des suicides en juillet 2010. Il y a eu une vague de suicides. J'ai rencontré notamment un ingénieur que je cite dans le reportage, qui est extrêmement choqué sur la façon dont sa direction l'oblige à traiter les Chinois quand il va sur le continent. Donc, d'une partie de la bourgeoisie, c'est comme ça. Et puis, il y a l'autre partie qui est constituée du peuple taïwanais. L'île de Taïwan a été occupée par les Portugais d'abord, puis par les Chinois, puis par le Japon, comme vous l'avez rappelé, de 1895 à 1947. C'était un Japon extrêmement dur, c'était le Japon impérial. Et puis, effectivement, quand les Chinois sont arrivés en 47, c'est-à-dire qu'il y a eu libération de l'île, les Chinois ont été d'abord accueillis plutôt avec bonheur par les Taïwanais, parce que ça les libérait de ce joug absolument terrible des militaires japonais. Et donc, ils ont accueilli les Chinois avec beaucoup de bonheur. Ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu une énorme terreur avec plusieurs milliers de Taïwanais massacrés. Il y a eu une sinisation forcée de Taïwan avec une éradication complète de la culture de Taïwan. Aujourd'hui, il y a un vrai retournement, si je puis dire. Les Taïwanais se sentent tout à fait différents des Chinois. Il y a des vraies études faites par des sociologues qui montrent qu'en 1999, il y avait 46% de Taïwanais qui se déclaraient chinois. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3,9% à se déclarer chinois. Je dois dire que j'ai beaucoup rencontré de gens, notamment chez les intellectuels, mais aussi chez une partie des ouvriers, c'est-à-dire les deux pôles, d'une certaine manière, de la société, qui se considèrent avec des racines chinoises. C'est-à-dire qu'ils ne nient pas du tout qu'ils ont des racines chinoises, mais qui veulent être reconnus comme des Taïwanais. Alors, que va devenir ce système à long terme ? Nul ne le sait. Moi, j'y suis allé à la veille des élections. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois du continent de Pékin étaient extrêmement attentifs et souhaitaient que ce soit l'actuel pouvoir, Ma Yongzhou, qui reste au pouvoir. De fait, il a été élu, mais aussi les Américains. Assez curieusement, c'était le candidat et des Chinois et des Américains, parce que les Américains veulent une stabilité. Ils ont, à la veille des élections au mois de janvier, ils ont annoncé qu'ils livreraient des nouvelles armes à Taïwan, aux grandes dames d'ailleurs des Chinois du continent. Et puis, ils ont annoncé qu'il y aurait maintenant plus de visas entre Taïwan et les Américains, ce qui, pour les Taïwanais, est une forme de reconnaissance non négligeable, puisque les Chinois du continent ont toujours besoin d'avoir un visa. Donc voilà, on a une situation qui, du point de vue géopolitique, risque de durer avec une sorte de, comme on le dit dans le diplôme de ce mois-ci, c'est-à-dire une sorte de trêve diplomatique. On peut l'espérer, on peut espérer que ça soit au moins un statu quo, mais on n'est jamais sûr de rien dans cette région. Il y a quand même, comme vous le savez, beaucoup d'enjeux géopolitiques. On sait que les États-Unis mènent une offensive pour reprendre pied un peu dans l'Asie.
La Corée du Nord, ça l'aurait bien pratique. Le démon, le monstre, est là, et il faut le surveiller, il est très utile ce monstre.
La Corée du Nord est absolument utile, et puis, mais bon, il faut dire que en plus à Pékin, ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'on est un peu, on se raidit, on est à la veille d'un congrès qui va changer donc 7 membres du secrétariat sur 9, hein. Et donc là aussi on est extrêmement tendu, y compris sur la question de Taïwan, c'est-à-dire quand on leur parle off très tranquillement. Les dirigeants à Pékin vous disent « Oh, mais on a le temps ». L'essentiel, c'est qu'ils ne déclarent pas leur indépendance, parce que ça, on ne peut pas l'accepter. Nous, notre territoire ne doit pas être touché, donc il n'est pas question qu'on accepte l'indépendance. Mais tant qu'ils restent comme ils sont, aucun problème. On est pour, comme vous le savez, une Chine de système. Les Taïwanais, eux, disent « une Chine, deux interprétations ». On peut interpréter d'un côté de la rive, du côté de Pékin, qu'on fait partie de l'ensemble chinois. Et puis nous, on interprète ça différemment, c'est-à-dire qu'on est autonome, voire indépendant. Bon, on essaie de maintenir le statu quo. Est-ce que ça peut durer ? Ce qui est sûr, c'est que la Chine ne peut pas intégrer à coup de canon, si je puis dire, Taïwan dans son giron. Ça me paraît complètement impossible du point de vue géopolitique comme du point de vue de la population taïwanaise.
On continue avec le diplôme de février, avec Anne-Cécile Robert, et on va s'intéresser aux Nations Unies, à l'ONU. Vous nous apprenez dans le papier, au passage, 44 000 salariés dans cette énorme machine, et vous vous inquiétez pour l'ONU. C'est un peu qui veut la peau de l'ONU, ce papier, Anne-Cécile.
J'imagine vos auditeurs, Daniel Mermet, qui disent « Oh, ils vont parler de l'ONU, on va s'ennuyer ». Mais non. D'abord parce que mon enquête...
Voyons.
D'abord parce que mon enquête est truffée d'anecdotes croustillantes, mais également parce qu'on aurait tort de sous-estimer le rôle que jouent les Nations Unies, un rôle quotidien. Vous citiez 40 000...
44 000, c'est votre chiffre, à vous, hein.
C'est le chiffre officiel. Finalement, c'est pas beaucoup quand on voit tout ce que font les Nations Unies à travers la planète en matière de maintien de la paix, d'aide alimentaire, de négociation, de création de normes juridiques. Et elles le font souvent dans la discrétion et avec beaucoup d'abnégation. Et là où on peut s'inquiéter, c'est qu'il y a une petite tendance parmi les grandes puissances internationales aujourd'hui à trouver d'autres lieux de discussion que les Nations Unies. On va créer des G20, on va créer des groupes d'experts, on va solliciter le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, alors qu'aux Nations Unies, il y a des organismes comme la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, ou l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui pourraient faire très bien l'affaire.
Donc il y a une tendance à un petit peu court-circuiter les Nations Unies. Alors vous me direz pourquoi c'est inquiétant. Ben, c'est inquiétant parce que les Nations Unies ont été bâties après la Seconde Guerre mondiale sur l'idée d'être un forum international où tous les États seraient représentés, où il y a des règles du jeu, il y a des procédures, où on doit se soumettre à un certain nombre de règles. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors que dans le G20 ou au Fonds monétaire international, toutes ces questions de droits de l'homme, toutes ces questions de paix, toutes les règles de représentation passent complètement à la trappe. Vous avez remarqué, le G20, bon, on a commencé, c'était le G7 dans le temps, ils se cooptent les uns les autres, ils créent un petit club et ils se transforment en directoire, où ils s'adoubent les uns les autres, alors ils se félicitent, etc. Et tout ça se passe en dehors de toute légitimité, en dehors de toute règle, et ça impose des choses à des populations entières. Le G20 se permet des conseils ou des recommandations en matière de dette, voire même maintenant en matière de sécurité internationale. Mais ces groupes n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité. Seules les Nations Unies, avec tous leurs défauts, hein. Il ne s'agit pas de tout peindre en rose, évidemment.
Mais parce que c'est quand même 44 000 salariés, vous dites oui, mais par rapport à tout ce qu'ils font, enfin, c'est quand même une énorme bureaucratie. Pour connaître un peu les postes des Nations Unies, casque bleu et autres à travers le monde, c'est quand même une inertie bureaucratique considérable.
C'est vrai que depuis quelques années, les Nations Unies ont...
Et c'est un libéral qui vous parle.
Et oui, je n'osais vous le faire remarquer, Daniel Mermet, mais bon. On pourrait dire que les Nations Unies, depuis une vingtaine d'années, n'ont pas perdu leur âme, mais ont tendance un peu à s'ankyloser. Parce que les États, les grandes puissances, même les populations, se sont détournées des Nations Unies. On n'en parle pas, on ne regarde pas ce qu'elles font. Et du coup, les Nations Unies se transforment en une espèce de machine qui ronronne, qui vivote. Et effectivement, pour être allé dans les différents sièges des Nations Unies, il y a un côté parfois un peu pesant. En plus, ils ont tendance à parler entre eux, une espèce d'anglais d'aéroport, bourré de sigles qu'on ne comprend pas. Ils font des ateliers, des commissions de travail. Effectivement, tout ça est un peu abscon, très bureaucratique. Mais ça, c'est plutôt une dérive. C'est pas dans la nature même des Nations Unies. La nature même des Nations Unies... Il faut quand même qu'on se rappelle que la charte qui fonde les Nations Unies commence par cette belle formule. Nous, les peuples des Nations Unies, donnons mandat à nos gouvernements pour créer, etc. Ça n'a rien à voir avec le Fonds monétaire international ou le G20, où on a des gens qui essaient simplement de préserver les intérêts de la bourgeoisie financière internationale. Donc il faudrait plutôt revenir à l'esprit d'origine des Nations Unies, qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, dans un moment où il fallait réinstaller la civilisation, qui avait été malmené par le nazisme et par la guerre. Le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme est très éclairant. À cet égard, si on le compare avec la pauvre charte dont l'Union européenne s'est dotée en 2000, il y a un fossé de civilisation. On évoque la nécessité de faire progresser la culture. On ne résume pas, comme le fait l'Union européenne, l'éducation à l'idée d'adapter les gens au marché du travail. Dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle, l'éducation, elle est là pour que les gens puissent développer un esprit fraternel, qu'ils puissent avoir connaissance des civilisations, qu'ils connaissent les autres pays, qu'ils deviennent finalement des êtres humains plus solidaires et plus ouverts sur le monde. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'il faut retrouver, d'autant plus que, vous n'êtes pas sans savoir, Daniel Mermet, car rien ne vous échappe, que nous vivons une géopolitique très bouleversée. Martine Bullard parlait des tensions en Asie, on évoque même une guerre froide en Asie. La civilisation est à nouveau en danger. C'est-à-dire, on voit revenir des idéologies de guerre, des idéologies de prédation qui sont légitimées par les grandes puissances elles-mêmes, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. L'être humain est de nouveau une chair à canon. Le Conseil de l'Europe dénonçait il y a quelques années les trafics d'organes qui ont lieu en Europe centrale ou à partir de certains terrains de conflit où on découpe les cadavres. Donc, tout est en train de basculer aujourd'hui. Il y a véritablement nécessité de réinstaller des valeurs de civilisation. Et tout imparfaite qu'elles sont, les Nations Unies restent le lieu le plus...
Alors, mais vous n'avez pas répondu à la question que vous vous êtes posée. Qui veut la peau de l'ONU.
Mais j'espérais, Daniel Mermet, faire monter la tension et que les gens se précipitent sur le monde diplomatique pour découvrir le nom de l'assassin.
La chute.
Voilà, si on dit tout de suite, après,
ils la jettent pas.
Les gens vont perdre l'habitude de soutenir la presse indépendante en allant au kiosque acheter le monde
diplomatique. Donc, si vous voulez, la fin du film, c'est dans le Diplo de février. Serge Halimi, un autre papier dans le Diplo, signé Alexander Cockburn, et qui évoque l'époque de la contre-culture aux États-Unis.
Oui, parce que là, c'est un anniversaire qui sera sans doute assez peu célébré ailleurs, parce qu'il n'est pas très connu. C'est en 1962, il y a un manifeste qu'on appelle le manifeste de Port-Huron, et qui sera le manifeste de la contre-culture américaine. Et l'intérêt de ce manifeste, il faut se replacer dans les conditions de l'époque et voir en quelque sorte la différence, le contraste avec le mouvement d'Occupy Wall Street dont on parle beaucoup ces temps-ci. En 1962, Kennedy a été élu depuis un peu plus d'un an, il va mourir à peu près un an plus tard, et les États-Unis sont dans une période de grande prospérité. Pas tout le monde, mais disons qu'il y a une classe moyenne qui enfle de plus en plus, qui est prospère, et un pays où on s'ennuie un peu, d'ailleurs, pour se replacer dans le contexte de l'époque, souvenez-vous des films des années 50, de La Fureur de Vivre avec James Dean, ou des films avec Marlon Brando, de cette classe moyenne américaine, où le père travaille dans son costume gris, où la mère est à la maison avec son tablier de cuisine, elle prépare le gigot pour les enfants, et d'une certaine manière, les gens vivent bien matériellement, mais il manque un peu d'idéal. Ils s'ennuient, ils font des bêtises, et les jeunes sont un peu dans cette optique qui est décrite par d'autres films, comme celui de Fellini, les gros veaux, des gens qui ne savent pas exactement pourquoi ils vivent, mais qui vivent bien. Et l'intérêt de ce manifeste de Port-Huron, c'est que c'est un manifeste d'avant-garde qui parle pour les 1% d'Américains qui ont cette espèce de conscience que cette société de consommation est une société du vide, sans valeur, sans vertu, alors qu'elle reproche à la quasi-totalité des Américains, eux, de vivre dans le confort. Et le manifeste de Port-Huron, qui sera donc ce manifeste de la contre-culture, dit à la fin, puisqu'on en reproduit des extraits dans le Diplo de février, il dit « Notre action est guidée par le sentiment que nous pourrions être la dernière génération à jouir de la vie, mais nous sommes une minorité. La grande majorité de notre peuple considère les équilibres éphémères de notre société et de notre monde comme une mécanique infaillible et éternelle. » Et ce qu'explique Alexander Cockburn dans son article, c'est qu'avec Occupons Wall Street, il y a eu un retournement total. La minorité, ça n'est plus la minorité conscientisée qui découvre que le capitalisme est sans vertu, sans valeur, sans charme, mais c'est maintenant la minorité, ce sont ces 1% de population les plus riches qui accaparent l'essentiel des produits de la richesse économique, laissant les 99 autres pourcents vivre dans des conditions matérielles de plus en plus précaires. Et il est intéressant de voir ce renversement, comment la minorité qui était une minorité consciente très à gauche devient maintenant une minorité qui accapare l'essentiel des richesses et qui provoque un certain sentiment de colère contre elle. If the sun refuses to shine, I don't mind. I don't mind. If the mountains fell in the sea, let it be. It ain't me. Turned out to be nice. Oh, I don't mind. Oh, I don't mind. If all the hippies cut off all their hair. Oh, I don't care. Oh, I don't care.
Ah, alors là, le papier auquel je n'ai absolument rien compris, sauf le dernier paragraphe. mais j'en suis sûr, un ignare dans ce domaine, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auditeurs de la basse. J'y suis. Aurélien Barraud, vous avez exactement 7 minutes pour nous initier à la cosmologie, au Big Bang, au trou noir, bref, à l'origine et à l'évolution de l'univers à travers votre regard d'astrophysicien.
Mais 7 minutes, dans quel référentiel? Tout est là, c'est une question de relativité. Non, la cosmologie est une science un peu singulière, évidemment de par son objet d'étude. Parce que l'univers, ce n'est pas n'importe quoi, et il faut tenter de l'appréhender dans toute l'étendue de sa spatio-temporalité, sans limite aucune. Elle est aussi spécifique dans sa méthode, parce que l'expérience en question, la création du monde, n'a, semble-t-il, eu lieu qu'une fois. Il faut donc ajuster un peu notre procédure usuelle d'inférence des lois. Et pourtant, force est de constater qu'en dépit, ou peut-être même grâce d'ailleurs à ses spécificités, la cosmologie est devenue une science, et même une science de précision. Aujourd'hui, elle est fondée sur une grande théorie, la relativité générale, qui nous apprend que l'espace est une entité dynamique. Autrement dit, l'expansion que l'on observe n'est pas une expansion des corps dans l'espace.
Mais est-ce que je peux observer l'expansion, moi ?
Mais partout. Chaque point du cosmos s'éloigne de chaque autre. Et c'est un mouvement de l'espace lui-même. C'est l'espace qui se dilate. Pourtant, un certain nombre de paradoxes viennent s'immiscer dans ce paradigme. Et c'est là que ça devient intéressant.
Ben oui.
Mais ne riez pas, à moins que ce soit un rire jubilatoire.
Jubilatoire, mais jubile.
Tout le monde jubile. Je crois qu'on peut espérer être à l'aube d'une nouvelle révolution. Peut-être celle du multivers. Pensez à la relativité.
Ah, l'univers, multivers.
Regardez, la relativité générale prédit, au moins dans certains cas, un espace infini. Si l'espace est infini, les univers le sont aussi. Tout ce qui est possible doit alors se produire. Autrement dit, il existe des copies à l'identique de chacun d'entre nous. Un monde, Daniel Mermet, où vous devenez immédiatement, là, tout de suite, un vieux réactionnaire. Un autre celui-ci, je crois, vous restez cet éternel jeune subversif. Mais tout peut a priori avoir lieu. La mécanique quantique, l'autre grande théorie du XXe siècle, qui nous montre qu'à petite échelle, tout devient discret, discontinu, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Elle aussi prédit son multivers. Puis il faut aller encore plus loin. Il faut concilier cette mécanique quantique avec la relativité générale. Ce que fait ce qu'on appelle la gravitation quantique, à boucle par exemple. Elle prédit aussi son multivers. Vous le voyez, multivers spatial, parallèle, temporel, mais on peut aller encore plus loin. Pensez à la théorie des cordes, qui essaye d'unifier toutes nos interactions comme s'il s'agissait de différents modes de vibration, de petites cordes élémentaires. Un peu comme une corde de violon, suivant la position des doigts sur le manche, elle peut générer toutes les notes. Eh bien, celle-ci, quand on la concilie avec le scénario cosmologique, peut donner naissance à une infinité d'univers où cette fois même les lois sont différentes. Copernic, Darwin, Freud, ce serait notre univers lui-même qui se trouverait déchu de son piédestal et réinterprété comme un petit îlot, dérisoire et contingent. Alors je crois que c'est une proposition intéressante parce qu'elle floute un peu comme ça, elle revoit les linéaments des pratiques des sciences dures, mais elle pose aussi quelques questions sociétales. Une question politique évidente parce que la pratique de ces pensées audacieuses est rendue délicate en ce moment de par l'importation systématique des dogmes libéraux là où ils ne peuvent pas fonctionner, enfin supposer qu'ils fonctionnent quelque part, de par l'évaluation à outrance des chercheurs, de par la précarisation des emplois de la recherche et le financement sur projet.
Ça c'est la partie du papier que j'ai comprise.
Oui, c'est celle que j'ai... Bon, bref, c'est celle dont je suis le plus heureux, finalement, parce que c'est celle dont il est le plus rare de pouvoir parler pour un scientifique. Et là, effectivement, on peut craindre qu'il s'agisse au pire d'une incompréhension totale des mécanismes de création intellectuelle de par les pouvoirs publics. Ça, c'est plutôt au mieux, en fait. Ou au pire, d'une volonté délibérée de les museler et de ne pas permettre ces développements.
Et je crois que... Dans quel but, quel est l'intérêt de limiter, de museler?
Parce que toutes les pensées hors des sentiers battus ont quelque chose de la déconstruction et donc quelque chose de la subversion. Et je crois que tout ce qui questionne l'ordre établi ne se fait pas nécessairement par les voies sociétales, économiques et sociales, mais peut aussi se faire par les voies scientifiques, ce qui, pour certains, est peut-être plus inquiétant encore. Mais c'est aussi donc une question philosophique.
Est-ce qu'on a eu des époques où la conjoncture était plus favorable à cet esprit transgressif, subversif? Ou bien est-ce qu'on vit vraiment une époque non formidable, c'est-à-dire complètement médiocre aujourd'hui?
Ça serait plus facile de vous répondre si vous me demandiez s'il y a eu des époques pires, hein, du point de vue conjoncturel.
Je crois
du point de vue des idées. les choses vont pas mal. Mais du point de vue du déploiement possible de ces idées, c'est-à-dire du contexte, les choses sont pratiquement dans la situation la pire, je crois, parce que précisément la production de connaissances, ou plutôt la création de monde, puisque c'est quand même de ça dont il est question ici, n'est plus du tout à l'ordre du jour. La logique et la hiérarchie et le rouage économique s'est inséré à un tel point, s'est immiscé à un tel point dans le monde scientifique que quelque chose de grave peut se produire, ou pas. Mais disons qu'il y a un besoin clair, à mon avis, de résistance. Résister, c'est créer, écrivait Deleuze. Je crois que c'est à nous aujourd'hui de le mettre en pratique.
Je me souviens de nuits que j'ai passées devant un télescope.
Hubert Reeves, astrophysicien.
Et alors, il faut vous dire que là, on se sent très loin. On se sent très loin de la Terre. On se sent presque, on se dirait presque dans une capsule spatiale. On a devant soi, au télescope, une étoile qu'on regarde. On passe des heures très calmes. Tout est toujours très calme, très détendu. Et les travaux que vous avez à faire, ajuster le télescope pour pas que l'étoile dérive ou des choses comme ça, vous prennent très peu de temps. Alors vous avez beaucoup de temps pour méditer, pour sentir. Et on se sent plongé très loin de la Terre, on se sent plongé dans le monde, dans l'univers, dans le monde des étoiles. Je me souviens d'avoir longuement regardé une étoile et de m'être imaginé, par exemple, que j'en approchais progressivement et que je la voyais prendre des dimensions. Et j'imaginais qu'il y avait là des planètes et qu'il y avait des gens qui habitaient là. Et je me sentais très près d'eux. Une nuit dans un observatoire, ça vous nourrit. Ça vous nourrit, pas seulement sur le plan intellectuel, mais ça vous nourrit sur le plan émotif. C'est une émotion si profonde que vous en êtes marqué.
Voilà, on continue avec le monde diplomatique de ce mois de février avec Jean Ziegler. Jean Ziegler, on ne le présente plus, il est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies et il est auteur d'un livre indispensable qui vient de sortir, « Destruction massive géopolitique de la faim » dont nous avons parlé déjà dans la base où j'y suis. Mais qui est indispensable. Jean Ziegler, on se disait, oui, bien sûr, les spéculateurs, bah oui, c'est terrible, les traders, bah oui, c'est terrible, mais qu'est-ce que vous voulez, ils s'enrichissent, et ben voilà, si on pouvait, on s'enrichirait aussi. Et ce qu'on essaye toujours de démontrer, c'est le détriment, comment l'enrichissement des uns entraîne l'appauvrissement des autres. Vous avez passé les trois quarts de votre vie à le démontrer, à travers vos bouquins, à travers votre travail. Et là, c'est pas seulement la spéculation qui se fait au détriment des autres, c'est au détriment de la vie des autres. Là, il s'agit de la spéculation sur les denrées alimentaires. C'est le dernier refuge de la spéculation. Et vous mettez ça vraiment froidement à plat dans ce bouquin et dans le papier que vous donnez ce mois-ci au Diplo, quand le riz devient un produit financier. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur votre propos ?
Il est certain que, d'abord, il faut dire un mot sur la situation actuelle de la faim dans le monde. 36 millions de personnes meurent de faim ou de ses suites immédiates dans une année, chaque année, ça fait à peu près la moitié de toutes les morts, personnes mortes, toutes causes de mort confondues sur la planète. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Et 1 milliard d'êtres humains sont mutilés gravement et en permanence sous-alimentés. Et dans cet ordre cannibale du monde, les spéculateurs sur les aliments de base, et les aliments de base essentiellement, c'est le riz, le maïs et le blé, qui couvrent 75% de la consommation normale, planétaire normale, les spéculateurs jouent un rôle tout à fait meurtrier. J'ai eu assez de procès sur le dos, donc je le dis avec force, c'est légal. Ils le font légalement. Les spéculateurs ont perdu sur les marchés financiers en 2007-2008 plus de 85 000 milliards d'euros, donc des sommes énormes. Ils ont ensuite migré sur les marchés des matières premières et essentiellement des matières premières agricoles. Et là, les grands hedge funds, les grands spéculateurs jouent sur le riz, sur le maïs, sur le blé, sur le soja, le cacao, le café, etc. et font des profits astronomiques. qui sont payés par la mort de millions et de millions de personnes, puisqu'évidemment, les prix augmentent. Et quand les prix flambent, et ils ont flambé dans les derniers 18 mois, le maïs a augmenté 93%, la tonne de blé meunier a doublé, elle est à 271 euros maintenant, et la tonne de riz philippin a augmenté de 113%. Quand les prix flambent, simplement, dans les bidonvilles, on ne peut plus acheter suffisamment de nourriture, et la mort fait son entrée massivement, tue des millions et des millions de personnes supplémentaires. C'est la première conséquence de la spéculation. La deuxième conséquence, vous savez que le Programme alimentaire mondial, cette institution magnifique d'ailleurs, je l'ai vu sur le terrain quand j'étais rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, le Programme alimentaire mondial est chargé par la communauté internationale d'apporter l'aide humanitaire d'urgence. Quand un État implose par suite une guerre, par suite un climat, c'est la famine. C'est là maintenant que nous vivons, enfin pas nous les blancs intellectuels parisiens ou genois évidemment, mais ce que les populations, 12 millions de personnes vivent dans 5 pays de la Corne de l'Afrique, le Programme alimentaire mondial a installé 17 camps et doit refuser tous les matins des centaines de personnes sortant de la brume du matin, qui ont marché parfois une ou deux semaines venant de leur village dévasté, parce que le PAM doivent sélectionner, parce que le PAM n'a simplement pas pu acheter avec les nouveaux prix suffisamment de nourriture pour fournir cette aide humanitaire urgente qui est nécessaire. Et troisième, dernier élément, c'est que le PAM, le Programme alimentaire mondial, a perdu aussi à cause des spéculateurs la moitié de son budget. En 2008, il était de 6 milliards de dollars, il est de 2,8 milliards de dollars. Et le PAM, par exemple, a biffé au Bangladesh, où j'ai fait une mission récemment, au Bangladesh, pour 1 million d'enfants, tous les repas scolaires, alors que ces gosses vivaient de cet unique repas. Et pourquoi ? Parce que les pays occidentaux ont simplement très très fortement réduit leur contribution au PAM et à d'autres organisations des Nations Unies aussi, parce qu'ils doivent renflouer leurs bandits bancaires. Donc les spéculateurs sur les aliments devraient être traduits devant un tribunal de Nuremberg pour crimes contre l'humanité. On pourrait sans problème, c'est ça qui est tellement absurde dans cet ordre cannibale du monde et qui nourrit aussi un peu la colère qui porte mon livre « Destruction massive », parce qu'il s'agit d'une destruction massive, volontaire et totalement inutile. Demain matin, la France, par exemple, est une grande, vivante démocratie. On peut critiquer beaucoup de choses, etc. Mais enfin, si l'opinion publique dans nos pays dominateurs d'Occident se réveillait, si cette insurrection des consciences avait lieu, demain matin, par une révision des différentes lois boursières, on pourrait interdire purement et simplement la spéculation sur les biens alimentaires de base. Ce massacre doit s'arrêter.
Alors, c'est pas ça, c'est évidemment, c'est un appel à la conscience. Je souligne quand même ce que vous dites sur la nécessité d'un tribunal de Nuremberg pour les spéculateurs. Est-ce que c'est votre verve qui vous entraîne jusque-là, ou bien c'est quelque chose que vous considérez comme quelque chose qui serait juste ?
Écoutez, il y a quelque chose de tout à fait encourageant, malgré le titre « Destruction massive géopolitique de la faim », donc un titre qui peut indiquer un peu une dimension négative de la situation actuelle de mon livre. C'est un livre d'espoir. Et il y a quelque chose qui est formidable, que je n'ai pas besoin de vous expliquer à vous, Daniel Mermet. Il y a la société civile qui naît. Un nouveau sujet historique est en train de surgir. Marx a dit « Le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. »
Oui.
L'herbe pousse. Partout, les gens se dressent. Les forums sociaux mondiaux sont la preuve. Il y a partout des nouveaux mouvements sociaux, des luttes paysannes s'organisent. Via Campesina est le plus grand syndicat probablement du monde, 123 millions de petits métayers, journaliers agricoles, petits paysans, pêcheurs à travers le monde, du Canada jusqu'en Indonésie. Et je pense que la génération, les deux générations après nous, vont se retourner sur notre situation, sur notre pratique et sur notre indifférence maintenant, 2012, et vont se dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu tolérer que sur une planète qui déborde de richesses, 36 millions de personnes soient assassinées tous les ans par la faim. Il s'agit bien d'un assassinat, puisque le World Food Report des Nations Unies, qui donne le chiffre des victimes annuellement et qui n'est jamais contesté par personne, même pas par les plus furieux néolibéraux à l'Organisation mondiale du commerce ou au FMI, ou à l'UBS, à l'Union Banque Suisse, United Bandits of Switzerland, contesté par personne, le même World Food Report dit que l'agriculture mondiale, dans l'actuel développement de ses forces de production, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, donc presque le double de l'humanité. Conséquence, conclusion, aujourd'hui, il n'y a plus aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné.
Merci à Jean Ziegler. C'était l'émission mensuelle de Là-bas si j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique, aujourd'hui autour du numéro de février. Merci à Serge Halimi, Martine Bullard, Anne-Cécile Robert et à Aurélien Barreau. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site la-bas.org et sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Bertrand Chemeton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Qui ? Oui !
Qui ?
Oui !
Qui ?
Oui !
Ben Jean-Mi, à qui tu dis oui ?
Au kiwi, dans mon assiette ! C'est un kiwi français ! Je vais pas lui dire qui est-ce, il faut lui dire oui, au kiwi français !
Ah, kiwi !
Qui ? Oui ! Qui ? Oui ! Qui ?
Cultivé en France, récolté en novembre, le kiwi français se déguste jusqu'en juin. Le kiwi français ? Le kiwi à qui on dit oui ?
France Inter et la MC 93 à Bobigny présentent jusqu'au 13 février le festival international Le Standard Idéal. Lisbonne célèbre le songe d'une nuit d'été et de Fairy Queen, théâtre, opéra baroque, film, installation d'artistes par le Teatro Praga, qui signe aussi Israël, un spectacle performance bluffant. Budapest avec Zsolt Nagy, acteur fétiche d'Arpa Chilling dans les actes de Pitbull. Berlin en clôture du festival avec le clavier bien tempéré de Bach par David Martin. Une révolution musicale à la recherche d'une partition théâtrale. Retrouvez-les dans les émissions de France Inter.
France Inter, il est 16h dans quelques secondes. Les informations, Laetitia Gaillet.
Les salariés de Lejabi seront reçus à l'Élysée dans une heure. La Fédération Textile CGT dénonce aujourd'hui une récupération politique malvenue. Les syndicats rappellent que 350 emplois du fabricant de lingerie restent à sauver. Cette semaine, un maroquinier-auvergnat fournisseur de Vuitton qui appartient à LVMH a annoncé la reprise de l'usine d'Issingeaux en Haute-Loire et de ses 93 salariés. Et pendant que les politiques se réjouissent de la reprise de l'usine d'Issingeaux, on s'apprête à supprimer des emplois dans un autre secteur. Le groupe de distribution HTM Group, ex-boulanger, annonce aujourd'hui donc un plan social chez Cap Boulanger. Près de 400 emplois vont ainsi être supprimés. La journée de la colère aujourd'hui en Égypte est en train de devenir une journée de la violence. Des affrontements ont lieu depuis le début de l'après-midi entre manifestants et policiers à Suez et au Caire. Les manifestants réclament le départ des militaires au pouvoir. Il y a 2 morts à Suez. 8 soldats syriens ont eux été tués aujourd'hui dans des heurts avec des soldats déserteurs à Dera dans le sud de la Syrie. Un bilan qui vient s'ajouter aujourd'hui aux 6 morts tués dans le pays. Les États-Unis connaissent une nouvelle embellie sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage est en baisse, 8,3% en janvier contre 8,5% en décembre. C'est son plus bas niveau depuis 2009. En janvier, 243 000 emplois ont été créés ainsi aux États-Unis. C'est la preuve, dit la Maison-Blanche, de la reprise économique. Écho de campagne présidentielle aujourd'hui, François Fillon et Alain Juppé ont fait assaut d'amabilité lors d'une visite du Premier ministre à Bordeaux ce matin. Les deux hommes ont mangé en tête-à-tête après une série de discours à la Chambre de l'Industrie et à l'Hôtel de Ville, au cours desquels les deux hommes ont utilisé le tutoiement. Après Obama et Sarkozy à la télé, lundi ce sera Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État et la chancelière allemande accorderont un entretien croisé aux chaînes de télé allemandes ZDF et à France 2. L'interview durera entre 10 minutes et un quart d'heure. Il sera enregistré à l'issue du Conseil des ministres franco-allemand à l'Élysée. À gauche, au PS, Julien Drey déclare aujourd'hui que cela ne le choquerait pas de voir Marine Le Pen écartée de la course à la présidentielle en raison d'un nombre de parrainages insuffisant. « Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut que le FN soit représenté », a déclaré le député socialiste Julien Drey. Donc, si elle n'est pas capable de convaincre les maires, ce n'est pas parce qu'il y a des pressions, ce n'est pas vrai. Toujours à propos du Front National, selon un sondage CSA, cette fois pour Capital et M6 publié aujourd'hui, le programme économique du FN est jugé crédible par moins de 2 Français sur 10. L'enquête a été réalisée lundi et mardi dernier. Des enseignants ont bloqué ce matin un lycée de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Ils ont protesté contre des fermetures de classe et suite également à l'agression de l'adjointe du proviseur. Elle a été frappée la semaine dernière par le frère d'un élève qui s'était introduit dans l'établissement. Les professeurs ont prévu de remettre le couvert lundi. Ils ont demandé à être reçus par le rectorat de Créteil. Vous écoutez France Inter, bientôt 16h03.
Librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Au sommaire cette semaine, un poète marocain qui a reçu le grand prix de la francophonie de l'Académie française. Abdelatif Lahabi porte un regard sur les turbulences du monde et sur un humanisme salvateur. Il sera question du handicap avec le photographe Denis Darzac. Et puis nous serons avec Claire Castillon pour son nouveau roman, une histoire choc autour d'une jeune fille traumatisée. Un livre paradoxalement drôle mais qui fait débat dans notre équipe.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad, tous les samedis à 17h. France Inter.
La différence.
Voilà Didier Varrou.
Comment
bonjour.
Ça va?
Ça va bien, je vous rends les CD que vous m'avez prêtés parce que vous êtes mon disqueur préféré.
Liz Green et Lana Del Rey. Ça voilà. Va, ça s'est bien passé,
l'écoute. J'aime beaucoup Liz Green.
Vous aimez beaucoup Liz Green?
Oui.
Moi non plus. On vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Quand la musique donne.
Rock, musique électro, techno,
chansons, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment? C'est une vibration.
Didier Varro.
Ils sont nés à Paris. Il est né à Colmar. Ils ont démarré dans une cave à Montreuil baptisée Le Bloc. Il y a eu comme un geste politique et visionnaire d'intituler son premier collectif « Dernière bande ». Il y a eu chez eux cette jubilation de franchir le mur du son. Il y a chez lui cet irrépressible besoin d'appréhender la musique comme une mise en circulation. Ils ont pris d'assaut un jeu vidéo avec un jouet d'enfant et des millions de Japonais ont ainsi joué sur leurs chansons. Il a pris la Bastille imprenable de la littérature pour irriguer son rock mutant. Pour eux, le rock est comme une expérience subjective. Pour lui, sa vie a été sauvée 2 fois, la première fois par le rock, la 2e fois par le velvet. Ils ont écrit sur l'adolescence parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Il a inventé le pamphlet sonore parce qu'il fallait se mettre en colère. Ils ont fait la première partie du groupe The Rapture à Nashville. Il a sonorisé le pavillon français à l'exposition universelle d'Aichi. Ils sont coincés dans le son, lui non plus. Il s'appelle Stuck in the Sand, il s'appelle Rodolphe Berger. 2 noms pour 3 initiales, RBS, comme Rodolphe Berger, Stuck. Non, ce n'est pas Stuck, Scottish Bank of Scotland, ni Radio Bienvenue Strasbourg, qui existe, ni même la méthode RBS de l'analyse par faisceau d'ions. C'est Rodolphe Berger et Stuck in the Sand qui se rencontrent sur France Inter, notre drôle d'endroit pour une rencontre. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Bonjour José.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
Tu es venu seul José parce que ouais. Ça aurait été moins pratique peut-être de mettre tout le monde autour de la table, mais je suis ravi, c'est notre première rencontre sur France Inter. Rodolphe, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ouais. Rodolphe, une première question selon le rituel de l'émission à José pour Stuck in the Sound.
Alors je vais embêter parce que la question que je voulais poser, au fond tu viens d'y répondre avec ton introduction. Moi, la question à laquelle je pensais c'était, à ton avis, pourquoi Didier nous invite tous les deux? Pourquoi est-ce qu'il a eu envie de...
Parce que déjà, il a beaucoup aimé l'album de Stuck in the Sound.
C'est vrai, je confirme.
et aussi parce que vous vous connaissez depuis super longtemps aussi. Je crois que
ouais.
Vous avez fait...
Depuis 1986. Hein.
Voilà, c'est ça.
Et à part ça, à ton avis? Qu'est-ce qu'il pourrait faire?
Parce qu'on est deux beaux gosses.
Non, c'est une question de lui, du coup,
gosses.
C'est lui qui va faire l'émission.
Deux beaux gosses, c'est pas mal aussi.
Deux beaux gosses sympas, pour passer un moment agréable.
Voilà, de générations différentes. Bon.
José, une question à Rodolphe.
J'en ai deux.
Deux,
alors
super.
Déjà, comment ça va?
Super bien.
Parce que c'est pas facile, hein, la promo. On a passé beaucoup de temps à bosser sur nos disques et on doit les expliquer, on doit doit argumenter dessus. Et donc ça. Et ma deuxième question, c'est après toutes ces années de Zik, est-ce que t'es toujours stressé? Est-ce que t'as encore du stress?
Avant une émission, par exemple.
Ouais, par exemple.
Ouais, absolument. Et avant les concerts, je te dis même pas. Donc ça, évidemment, c'est. Je dirais que ça ne s'est pas apaisé, calmé. Je ne sais pas s'il faut le souhaiter d'ailleurs, parce que ça serait quand même pas bon signe si ça devenait complètement banal ou normal. Ou... J'ai jamais considéré ça comme un métier du tout, et ça c'est pas prêt de le devenir. Enfin, je continue de penser que cette activité, faire de la musique, est tout à fait, comment dire. Voilà, elle a quelque chose de profondément anormal, au bon sens du terme.
Je suis complètement d'accord.
Est-ce que, pour Stuck in the Sand, au moment où sort le troisième album, il y a ce petit vertige aussi, dû au regard des autres, l'attente, ça se passe plutôt bien? Ou est-ce que...
C'est le quotidien d'un musicien, en fait. C'est à la fois entre le doute et la prétention de créer un groupe de rock et de faire de la musique. Donc on est dans l'intime, on est hyper prétentieux, on est là, on fait Stuck in the Sand, c'est génial, on a fait un super album. Mais après qu'on se retrouve face aux autres, c'est pas la même chose. Et monter sur scène, ça nous stresse pas du tout, parce que ça fait partie de notre passion, en fait.
Et pourtant, c'est pas un acte naturel, il faut quand même...
C'est pas naturel du tout.
C'est dingue.
Ouais. Alors qu'en parler, par contre, ça c'est stressant.
Ouais. Monter sur scène, c'est pas naturel, Rodolphe. Hein.
Non. Cela dit, ça a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire, je suis évidemment, j'ai toujours le trac, cette espèce de vertige qui est pas que désagréable d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, il y a quand même ce passe. Il faut voilà, il y a un saut à faire. En effet, c'est pas normal, tout d'un coup, d'aller.
Tous ces gens qui nous regardent.
Et en même temps, je dirais, voilà, je me suis beaucoup détendu quand même. C'est-à-dire que aussi, le plaisir l'emporte énormément. Et très vite, il arrive. Voilà, donc le track disparaît instantanément. Je pense que pour vous, c'est ça aussi.
Pareil.
Plus vous, je pense que vous êtes un groupe de scène, un groupe de aussi de. Il y a quelque chose de festif.
On a bien transpiré sur scène.
Voilà. Voilà, il y a cette chose presque physique du concert aussi, de communion physique à l'intérieur du groupe avec le public.